C'est l'heure de l'émission de l'Ouganda congolais avec Jean-Claude Toumba qui est à la présentation.
Bonsoir, nous avons deux sujets à débattre dans cette émission. D'abord, le point sur le procès Thomas Lubanga, une semaine après son ouverture à la Cour pénale internationale. Et puis, quelles peuvent être les retombées de la normalisation des relations entre les deux pays, la RDC et la Belgique. Kinshasa et Bruxelles, comme vous le savez, ont conclu il y a quelques jours l'accord de principe pour la réouverture des consulats belges en RDC. Accord confirmé le week-end dernier à Addis Abeba en Éthiopie entre les deux ministres des Affaires étrangères, Alexis Thambwe Mwamba de la RDC et Karel De Gucht de Belgique. Merci à tous pour vos messages et réactions sur ces deux sujets. Nous en parlons avec pour invité Joseph Ipalaka, qui est député national, membre du parti politique DCF-COFEDEC, allié de l'Alliance pour la majorité présidentielle. Il est également président de la Commission des relations extérieures à l'Assemblée nationale. Rochelle Lumbala, député national, membre de l'opposition et président du groupe parlementaire ODER, Ordre de démocrates et républicains. Et Xavier Zedbrook, directeur adjoint de l'ONG dénommée Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité GRIP, c'est une ONG basée à Bruxelles. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Ouvrons le débat par la poursuite du procès Thomas Lubanga. Une semaine après, où en est-on avec ce procès? D'après notre envoyé spécial à la Haye, Yevin Mbwinga, le procès se poursuit avec les interrogatoires des témoins. Pour les détails, Yevin Mbwinga était joint tout à l'heure au téléphone par Magali Kabalé.
Il faut dire, Magali, que ce procès se déroule sans incident par rapport à ses débuts la semaine dernière. Le deuxième témoin a été entendu par la Cour, mais à huis clos. Pour revenir à la semaine passée, vous vous rappelez qu'au lendemain de l'ouverture de ce procès, le premier témoin qui a commencé à expliquer à la Cour son recrutement dans l'armée de l'UPC et même le type d'armes utilisées par ceux qu'on peut appeler ses ravisseurs avait soudain changé de langage. Après une pause de quelques heures, l'homme va nier tout ce qu'il a donné comme explication avant. Ce qui va surprendre le public, il va aller jusqu'à déclarer que ce sont des ONG basées en Ituri, sans dire lesquelles, qui se sont chargées de l'encadrement des enfants.
Et comment la Cour a réagi face à cette difficulté?
Bon, notez que c'est là où le procès va devenir très intéressant. Le bureau du procureur va évoquer les problèmes de sécurité des témoins. Il va parler précisément des menaces que subiraient les victimes, sans plus de détails. Pour ce faire, le procureur ainsi que les avocats des victimes vont exiger plus de garanties de sécurité vis-à-vis des témoins.
Et du côté des avocats de l'accusé?
Bon, la défense, elle aussi, a été exigeante, Magali. Elle a exigé la continuité de l'audition du premier témoin parce que, selon les avocats de Thomas Lubanga, le témoin était lucide et devait venir parler de ses craintes et de ses menaces devant la Cour.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Lévin?
Bon, le juge président a donné toutes les garanties de sécurité à la Cour, mais il a mis en garde les avocats afin qu'ils aident leurs clients à ne pas tomber victimes de l'auto-incrimination, Magali.
Y a-t-il d'autres problèmes?
Oui, il y a eu un problème apparemment mineur, mais qui peut être considéré comme très important. Les avocats de Thomas Lubanga ont fustigé le fait que les déclarations du premier témoin en Swahili ne sont pas transcrites fidèlement et ils ont parlé, je cite, de perte des phrases. Le juge président, Adrien Fulford, a assuré que la Cour va veiller sur cette question.
Qu'en est-il de la suite du procès, Lévin?
Sur les 34 témoins, deux seulement sont en train d'être entendus, donc on en a encore pour longtemps, Magali.
Voilà, Lévin Mbwinga, notre envoyé spécial à la Haye, Magali Kabalé, merci à vous. Il faut dire qu'au sein du parti politique de Thomas Lubanga, John Tinazabo, qui est président intérimaire de l'UPC, Patricia Thomas Lubanga. Pour lui, le déroulement du procès prouve que le procureur Moreno de la CPI discrédite cette instance la plus haute en matière de justice internationale. Cela s'explique, dit-il, par la manipulation des témoins avant que ces derniers ne comparaissent devant la cour. Raison pour laquelle un des témoins a nié le fait qu'il faisait partie des enfants soldats. À cet effet, l'UPC interpelle la communauté internationale en l'invitant, je cite, à prendre acte de l'agenda caché du procureur de la CPI. Alors nous avons comme invité, je vous l'ai déjà dit, Joseph Ipalaka, Roger Lumbala et Xavier Zebrook. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Voilà, je signale à nos auditeurs que les trois invités, vous intervenez au téléphone. On va peut-être commencer par vous. Roger Lumbala, vous intervenez depuis Mbujimayi.
Ben, je vous remercie. Je transmets mes vœux de bonne année et de courage à tous les citoyens congolais qui me suivent à ce moment précis. Ce que j'ai suivi, Thomas Lubanga est à la haine. Les témoins ou les témoignages sont contradictoires. Un témoin a nié en bloc tout ce qu'il avait dit, mais ça c'est en faveur de Thomas Lubanga. L'autre témoin vient confirmer les accusations contre Thomas Lubanga. Et comme vous le savez en matière de droit, les doutes profitent à l'accusé. Mais en tant que Congolais, je vois mal l'arrestation d'un compatriote alors que au Moyen-Orient, les atrocités sont vécues au quotidien. Alors que ces atrocités sont déplorées par le monde entier, alors qu'en Irak, la situation est dramatique. Mon souhait le plus ardent est celui de voir que Thomas Lubanga et Jean-Pierre Bemba bénéficient d'une justice qui n'est pas politisée. Les responsables de l'UPC ont dit, il y a de la manipulation dans le chef du procureur de la CPI.
Vous avez
suivi ce qui s'est passé avec le président du Soudan.
Vous avez des preuves.
Il y avait déjà... Pardon.
Vous avez des preuves, Roger Lumbala.
Oui, mais il y a des manipulations. Et nous avons des preuves. La simple raison est la suivante. Aujourd'hui, nous avons suivi ce qui s'était passé avec le président du Soudan, toutes les menaces qui avaient conféré contre lui. Nous avons constaté aussi que le président Sarkozy avait fait une déclaration disant que si il nous permet aux ONG d'avoir un couloir humanitaire au Darfour, ils peuvent négocier cela. Vous comprenez que c'est une histoire qui est positive et comme par hasard, le ventre mou du Congo, le ventre mou du monde, c'est la République démocratique du Congo où toutes les institutions internationales viennent tester ou expérimenter leurs histoires. C'est pourquoi nous nous disons Thomas Lubanga est arrêté, mais il doit bénéficier des présomptions d'innocence à partir du moment où aujourd'hui même les témoins que eux-mêmes ont choisi viennent et se répètent sur ce qu'ils avaient dit auparavant.
Là,
nous pensons que nous avons le droit de réclamer notre compatriote pour qu'il puisse bénéficier d'une justice équitable.
Et là, c'est le député national Roger Lumbala qui parle ou c'est l'ancien chef rebelle quand même qui parle?
Mais je parle en tant que citoyen congolais. L'arrestation de Jean-Pierre Bemba, l'arrestation de Thomas Lubanga, ce n'est pas normal. Vous avez vu avec ce qui s'est passé avec une dame qui est arrêtée en France. Le Rwanda s'est mis debout. Les Rwandais, je parle du Rwanda, s'est mis debout. Alors que cette dame-là est soupçonnée aussi dans les armes de jour. C'est ainsi que j'ai dit, je parle avec mon cœur, des nationalistes. Ça, tu peux arriver aujourd'hui. Vous savez que le chef de l'État a été aussi par une ONG international, cité dans des histoires comme ça. Demain, il peut être aussi poursuivi. Je ne serais pas tout à fait d'accord. Rappelez-vous,
merci.
J'avais dit que je pourrais prendre la défense du chef de l'État, il est inquiété de ce genre de choses.
Oui, Roger Lumbala, si
tout va pas, en tant que citoyen,
je
dis que je ne suis pas tout à fait d'accord, mais
Roger Lumbala,
je bénéficie d'une justice équitable.
Voilà, vous l'avez déjà dit, on va donner la parole à d'autres invités. Joseph Ipalaka, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, je vous suis très bien. Oui,
qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau?
D'abord, je vous salue très chaleureusement.
Je vous en prie.
Et je vais essayer d'être très bref, le plus bref possible.
On l'espère.
Tout ce que je peux dire à ce sujet est que nous ne pouvons pas cautionner l'impunité. Tout en sachant très bien qu'il n'y a pas de guerre propre, cela ne doit pas constituer un motif pour épargner les auteurs des crimes de la punition qu'on peut leur infliger.
Même si c'est au nom de la paix?
Pardon?
Même si c'est au nom de la paix?
Bon, ça c'est un autre problème. On va y arriver. Mais ce qui est souhaitable est que cette justice soit distribuée de la même manière, qu'on puisse atteindre tous les auteurs de crimes et les châtier la façon la plus sévère possible.
Oui, mais
ce que nous regrettons est que cette justice se fait de façon, ça ne se fait pas de façon impartiale, ça se fait de façon partiale, c'est comme si c'est dirigé vers une catégorie de personnes. Mais quant à moi, en tout cas, je souhaiterais qu'on puisse châtier sévèrement les criminels de guerre, puisque trop, c'est trop.
Oui. Est-ce que là, vous parlez précisément de ce procès Lubanga ou de façon générale?
Je parle de façon générale et aussi en incluant bien sûr le procès Lubanga.
Xavier Zebrouck, vous intervenez depuis Bruxelles.
Moi?
Oui. Non, je donne la parole à Xavier Zebrouck, c'est le troisième invité.
Donc je voudrais abonder dans le sens de deux remarques qui ont été faites précédemment. C'est vrai que il faut absolument maintenir la présomption d'innocence tant que aucun jugement n'est rendu. Ça, c'est absolument fondamental. D'un autre côté, effectivement, il faut aussi lutter contre l'impunité. Et donc là, je pense que nous assistons à un test très important de crédibilité pour la Cour pénale internationale, dont c'est quand même le premier procès. Et donc, tous les yeux sont rivés vers le fait que ce procès se déroule dans les meilleures conditions, dans le respect des droits de la défense, mais aussi aboutisse à une décision qui mette fin à une situation d'impunité. Alors, dans ce cadre-là, je pense qu'on va assister à un procès assez long et que on aura de nombreuses occasions de commenter ces résultats. Maintenant, ce qui est souligné également par les deux personnes précédentes que vous avez interrogées, tout ça c'est vrai, il y a un gros problème à l'heure actuelle dans la justice internationale. Il y a des conflits et il y a des pays sur lesquels, pour le moment, la justice internationale n'a pas prise.
On pense à la bande de Gaza.
Effectivement, il y a un problème de deux poids, deux mesures. Ça ne doit pas empêcher la justice internationale de faire son travail lorsque c'est possible, donc dans le cas Lubanga par exemple, mais ça doit nous maintenir vigilants sur le fait que aucun pays, aucun responsable ne peut à terme échapper à cette justice si c'est nécessaire.
Voilà. Au niveau de la population de l'Ituri, comment justement ce procès est-il suivi? L'Ituri, c'est le fief de Thomas Lubanga. Jean-Paul Bassila, notre confrère, signale que l'attention de la population de Bounia, chef lieu de l'Ituri, reste soutenue autour de ce procès. Jean-Paul Bassila.
À Bounia, la mobilisation de la population pour suivre ces procès est tellement forte jusqu'à dépasser l'entendement de la cellule de sensibilisation de la CPI venue de la Haye pour la circonstance. Mais s'affiche publiquement et ne s'exprime à haute voix que ceux qui pensent que Thomas Lubanga est innocent. Ceux qui ont l'opinion contraire observent la prudence et optent pour les silences. Les accusations formulées par les procureurs Luis Moreno Ocampo dès les premiers jours du procès ont ouvert une série de commentaires qui sont cependant loin de faire un débat. Il y en a qui pensent que des vrais enfants jadis associés à l'UPC ne sont pas à l'AE. Cette tendance s'en prend à certaines ONG locales de défense des droits de l'homme qu'elle accuse d'avoir recruté d'enfants faux témoins pour les comptes du procureur en échange d'argent ou de séjours en Europe. Une autre tendance soutient que Thomas Lubanga ne mérite pas d'être à la barre car certains enfants auraient adhéré à l'UPC, soit pour venger leurs parents massacrés, soit pour appuyer la cause de la communauté. Personne n'ose répondre publiquement à tous ces points de vue. Par contre, l'avènement du témoin qui s'est rétracté à la cour a suscité des cris de triomphalisme au sein de l'état-major politique de l'UPC à Bounia. Bounia, Jean-Paul Bacila, dialogue entre Congolais.
Merci Jean-Paul Bacila. Joseph Ipalaka, qu'est-ce que vous pensez de la manière dont la population de l'Ituri, et particulièrement de Bounia, suit ce procédé?
Bon, si j'ai bien suivi le reportage de tout à l'heure, les populations, il y a une catégorie de population qui est très réservée par rapport à ce procès-là. Il y en a un qui s'exprime timidement. Ça montre la gravité des faits, la gravité peut-être des atrocités commises pendant la guerre et que les gens ont peur de représailles. Ils sont en quelque sorte muselés à la peur. Ils n'osent pas s'exprimer. Ils n'osent pas exprimer leurs sentiments le plus profond qu'ils ressentent par rapport à ces problèmes-là. Et là, ça complique davantage même le procès, parce que on ne saura pas tirer vraiment la vérité quand les personnes les plus concernées n'arrivent pas à s'exprimer clairement, de peur peut-être de représailles, de part et d'autre, je ne sais pas. Ça va vraiment compliquer le procès.
Xavier Zebrouck, vous êtes évidemment directeur adjoint de l'ONG Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité GRIP, une ONG basée à Bruxelles. Il y a un auditeur qui nous a écrit, c'est Freddy Abou Bango depuis Bukavu au sud de Kivu. Lui, il dit que le procès Thomas Lubanga, pour qu'il ait un sens, il faut aussi arrêter les gens qui ont financé la guerre de l'Ituri. Car pour lui, Thomas Lubanga n'a pas une usine de fabrication d'armes. Qu'est-ce que vous pensez de cela et bien sûr aussi de l'attitude de la population de l'Ituri d'après le reportage de notre confrère de Radio Capi Bounia?
Oui, donc là, si on veut rentrer dans des considérations juridiques, ça devient un peu plus compliqué, évidemment. L'impunité, c'est vrai qu'il faut l'élargir à tout le monde, on est d'accord. Maintenant, vous savez, la Cour pénale internationale n'est compétente que pour une série de crimes. Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide. Donc, financer une rébellion, en soi, ça n'est pas un crime de guerre, ni un crime contre l'humanité, encore moins un génocide. Donc, si on veut à ce moment-là poursuivre les gens qui financent, eh bien, il faut le faire devant des juridictions compétentes. Au niveau international, je n'en vois pas. Au niveau national, bien sûr, elles existent. Il faut à ce moment-là que justice soit faite à ce niveau-là. Oui. Donc là, je dirais, la balle est dans le camp du gouvernement congolais et surtout de ses de la justice congolaise.
Oui.
Maintenant, concernant Bounia, je voudrais quand même dire, moi, ça me fait beaucoup plaisir que à Bounia, énormément de gens se sentent concernés par ce procès et veulent suivre son déroulement. Ça, c'est quand même un signe, même si les motivations sont parfois très différentes, et les avis également, c'est un signe qu'il y a du côté de la population une volonté de voir ce que va donner la justice internationale. Mmh. Et ça me fait beaucoup plaisir.
Oui. Vous pensez que très rapidement, vous pensez que ça peut diviser la population ou plutôt ça peut l'amener peut-être à mieux réfléchir avant de déposer certains actes, je dirais certaines exactions comme on l'a vécu, c'était atroce au niveau de l'Ituri.
Oui, un procès d'un haut responsable politique divise toujours la population. Vous savez, nous avons connu des procès touchant des responsables belges en Belgique, évidemment pas pour crimes de guerre, pour malversations diverses, etc. Et on a toujours pu remarquer qu'au moment du procès, la population est très divisée. Les responsables continuent à être soutenus par les gens qui les soutenaient auparavant, et ils sont très critiqués par les autres. C'est normal, ça se passe dans tous les pays. La question cruciale, c'est que au moment où le jugement est rendu, il faut à ce moment-là que ce jugement soit d'une probité telle que les uns et les autres puissent se ranger derrière ce jugement.
Voilà.
Et là, on voit que la justice a vraiment rendu service.
Oui, c'est là, justement, nous ramène à ce que notre auditeur, Robert Baumé de Bukavu, dit que la CPI sera aussi jugée par le résultat du procès Lubanga et des autres prévenus. Tout l'intérêt, donc, pour elle de rendre justice de manière un peu plus clair, impartial et objectif, sinon ce serait l'échec cuisant de la justice internationale. Roger Lumbala, il y en a qui disent aussi que Thomas Lubanga, il n'est qu'un menu prétin, alors qu'il y a des gros poissons qui seraient impliqués dans cette affaire et qui courent encore certaines rues à travers le monde.
Bien sûr que nous sommes tous d'accord avec les deux interlocuteurs pour dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Ce qui se passe à la bande de Gaza est assimilé à ce qui s'est passé dans d'autres pays, mais personne n'en parle. Ce qui s'est passé avec la pendaison même de Saddam Hussein, tout le monde sait que Saddam Hussein n'avait pas les armes sophistiquées, comme on les disait. Mais comme nous savons que c'est la main du plus fort qui est toujours la meilleure, c'est celui qui est plus fort qui, malgré ce qui s'est passé en Europe, malgré ce qui se passe encore à travers le monde, ben, il faut expérimenter dans un pays où on peut considérer comme le ventre mou, la République démocratique du Congo, où Thomas Lubanga a été livré par les autorités de la République de notre pays, où Jean-Pierre Bemba, les autorités de nos pays ont poussé la République centrafricaine à ce que Jean-Pierre Bemba soit arrêté à l'étranger. C'est pourquoi nous nous disons aujourd'hui, ce qui est fait, est fait. Mais les Congolais, vous avez l'attitude de nos frères et compatriotes qui sont à l'Ituri. Je connais l'Ituri pour avoir vécu là-bas pendant toute cette période-là. Personne ne peut aujourd'hui accepter l'arrestation de Thomas Lubanga comme s'il est le seul qui a fait, qui a mené la rébellion dans ces territoires-là. Est-il que, comme Thomas Lubanga est arrivé en dernière minute, alors que tout était déjà boutiqué au niveau de San City, il ne s'est pas retrouvé dans l'accord de San City.
Résumez-vous.
C'est ce qu'il fallait frapper par l'exemple.
Résumez-vous en un mot, Roger Lumbala.
En un mot, je dis qu'il n'y a pas, à travers le monde, une guerre propre. Et tous les gens qui ont fait des guerres, ils savent ce qui se passe pendant la guerre. Mais ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est d'avoir une justice, une bonne justice. Et moi, en tant que citoyen congolais, je réclame le retour de Thomas Lubanga. Nous ne cautionnons pas l'impunité. L'impunité, c'est en Israël. L'impunité, c'est les États-Unis. Il ne faut pas faire deux fois de mesure. J'ai cité ces pays-là, c'est pour rappeler à notre intervenant qui est en Belgique et qui le sait très bien. La justice pour les Noirs, elle est aussi noire. On nous considère encore dans cet état-là. Mais moi, j'ai dit, nous devons rester aussi solidaires entre nous et aussi se poser des questions. Pourquoi il y a des guerres en Afrique? Ce n'est que les Européens en question. Et je n'irai pas dans la logique de notre ami qui est de Bukavu qui a posé la question de savoir
qui
fabrique les armes.
Merci Roger Lumbala. On a compris votre idée parce qu'on doit poursuivre parce qu'il y a un deuxième thème qui nous attend. Peut-être on va permettre à Joseph Philippe Alaka et Xavier Zebrouck en 30 secondes, pour essayer de conclure tout en répondant à cet auditeur anonyme qui nous écrit depuis l'Angleterre. Il demande que prévoit le gouvernement congolais pour protéger les Congolais qui sont à la CPI. On n'a personne du gouvernement, mais peut-être Joseph Philippe Alaka, très rapidement en 30 secondes, si vous pouvez répondre.
Je vais répondre à la question de cet intervenant-là. Non, moi je ne peux pas répondre à la place du gouvernement. Notre gouvernement est allé dans les accords de Rome là pour les auteurs des crimes de guerre soient traduits en justice à la Cour pénale internationale. En respectant cette logique là, il est tout à fait normal que le gouvernement puisse rester logique avec lui-même.
Merci. On va permettre à Xavier Zebrouck de répondre aussi très rapidement à Roger Lumbala qui a dit, il semble dire qu'il y a pratiquement une justice pour les Noirs. Xavier Zebrouck.
Xavier Zebrouck. Oui, non, je ne pourrais pas le suivre sur ce chemin, je pense que la Cour pénale internationale se trouve devant un dilemme. Mmh. C'est que un certain nombre de pays dans le monde, dont la Belgique d'ailleurs, ont reconnu sa juridiction, mais d'autres ne l'ont pas fait. C'est le cas notamment des États-Unis, c'est aussi le cas d'Israël, et donc tous les pays qui ne l'ont pas fait, eh bien, par la force des choses, ne peuvent pas être soumis à ces investigations et à sa justice, puisqu'ils ne l'ont pas reconnu. Et donc c'est là qu'il faut se battre, et que beaucoup d'ONG européennes et américaines se battent pour que les pays qui n'ont pas encore signé soient amenés à le faire. Je pense
que les États-Unis,
la présidence d'Obama aux États-Unis, qui est quand même le premier président noir, les choses peuvent changer concernant l'attitude américaine face à la CPI. Nous en attendons beaucoup, en tout cas. Et les ONG américaines font pression très fort sur l'administration démocrate pour qu'il y ait un changement d'attitude. Donc, les choses pourraient changer dans les années qui viennent, et la CPI pourrait véritablement devenir un instrument juridictionnel universel.
Merci beaucoup, Xavier Zebrouck. Ça nous permet d'aborder le second sujet de cette émission Dialogue entre Congolais, normalisation des relations entre la RDC et la Belgique, avec l'accord de principe pour la réouverture des deux consulats belges en RDC. Que peuvent être les retombées de ce réchauffement entre les deux pays, la RDC et la Belgique? Nous abordons ce sujet juste après ce rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Que peuvent être les retombées de ce réchauffement entre les deux pays, la RDC et la Belgique? Lambert Mende, ministre congolais de communication et médias, salue cette normalisation des relations. Quant à l'échange des ambassadeurs et la réouverture effective des consulats des deux pays, le porte-parole du gouvernement congolais précise que c'est une question de calendrier fixé par les deux États. Lambert Mende est joint au téléphone par Pierre de la Mégie.
Je pense qu'il faut laisser les choses se faire dans un certain ordre. Hein. Vous savez bien que les ambassadeurs viennent, en ce qui concerne le Belge, vient d'être agréé par notre gouvernement. Et notre gouvernement doit soit renvoyer son ambassadeur qui a été rappelé, soit désigner un remplaçant. Donc il faut que ça se fasse d'abord au plus haut niveau des ambassadeurs, avant que, avec ces ambassadeurs, nous puissions régler le problème de la réouverture des consulats qui se situe à un autre niveau. C'est une question de jours ou de semaines. Il y avait pas mal de programmes que la Belgique et le Congo entreprenaient ensemble qui avaient souffert de ce refroidissement. Et nous pensons que le rétablissement de la normalité va booster la mise en œuvre de ces programmes dont le peuple congolais a besoin, et donc c'est une bonne chose pour l'ensemble de ces projets de développement, de coopération au développement.
Voilà, Lambert Mende qui salue donc le réchauffement, la normalisation donc des relations entre la Belgique et la RDC, il faut le dire, la tension remonte au 23 mai de l'année dernière. Joseph Ipalaka, vous êtes député national, membre du parti politique DSF, COFEDEC, allié de la majorité présidentielle. Vous intervenez surtout comme président de la commission des relations extérieures à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi satisfait, j'imagine, comme le porte-parole du gouvernement central.
Oui, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, lorsque la commission avait auditionné le ministre des Affaires étrangères à ce sujet, la commission avait fortement recommandé au gouvernement de rétablir dans les meilleurs délais les relations diplomatiques avec la Belgique. Parce que le refroidissement, ce conflit n'arrangeait personne, ni la Belgique, ni la République démocratique du Congo. Et quant aux retombées, les retombées ne pourront être que positives. Vous savez, les liens diplomatique entre la Belgique et la RDC, sont des liens séculaires. La Belgique connaît très bien notre pays, et surtout en cette période de conjoncture difficile, la RDC a besoin de plus d'amis que d'ennemis.
Oui, mais c'est des relations toujours en dents de scie.
Oui, c'est toujours en dents de scie, c'est ce que nous déplorons. Il faudrait que chacun de son côté essaie de mettre de l'eau dans son vin, pour atténuer les effets de crise pour atténuer les incompréhensions, pour arriver à harmoniser tout le temps le point de vue. La diplomatie, c'est les négociations, le jeu de cache-cache. Vous concédez d'un côté et vous gagnez de l'autre côté. Et c'est perpétuel.
Oui. Joseph Ipalaka, en attendant, je vais vous demander de vous déplacer un peu parce qu'il y a trop de bruit autour de vous. On a l'impression qu'il y a des enfants qui jouent tout autour. Est-ce que vous voulez dire qu'en réchauffant justement ces relations, le gouvernement congolais vous a écouté, vous, les parlementaires?
Oui, parce qu'à cette époque-là, le gouvernement déjà avait promis de faire quelque chose. Mais ça a pris un peu du temps. Bon, l'essentiel, c'est d'avoir les résultats.
Oui.
Nous avons les résultats, c'est une très bonne chose. Alors, vous avez parlé des retombées. Il y aura certainement des retombées dans le domaine économique, dans le domaine culturel. Oui. Nous avons des accords de coopération. Nous avons eu des accords de coopération avec la Belgique dans plusieurs domaines.
Oui.
Par exemple, dans le domaine universitaire. Notre enseignement supérieur éprouve beaucoup de difficultés et dans le cadre de cette coopération, on peut régler pas mal de choses.
Et vous pensez qu'il y a des choses qui étaient bloquées, certains projets qui étaient effectivement bloqués?
Bon, je ne dis pas que ça va se faire automatiquement.
Oui.
J'ai dit tout à l'heure, la diplomatie, c'est un jeu de négociation, c'est un jeu d'intérêt.
Merci. Merci. On va donner l'occasion à d'autres invités, Roger Lumbala et Xavier Zebrouck, de répondre, notamment avec ce que nous dit Mupenda Maningi, qui nous écrit depuis Kindu Maniema. Est-ce que la diplomatie belge n'offensera plus celle de la RDC? Quelles sont les mesures prises pour qu'on n'assiste plus à ce genre de relations? Qu'est-ce que vous lui répondez, Xavier Zebrouck, que vous intervenez depuis Bruxelles, en Belgique?
Alors, évidemment, je ne peux en aucun cas m'avancer au nom de la diplomatie belge que je ne représente pas. Donc, je ne sais répondre ni par oui ni par non. Mais effectivement, je peux...
Mais vous comprenez un peu mieux que nous, quand même, vous êtes en Belgique.
Oui, je peux constater que, pour une fois, parce qu'il y a eu de nombreux hauts et bas dans les relations belgo-congolaises, on peut remonter même jusqu'à Mobutu, hein.
C'est le fameux contentieux belgo-congolais.
Excusez-moi.
Non, je dis avec le fameux contentieux belgo-congolais, on se rappelle de tout ce que ça avait suscité comme débat.
Tout à fait. Mais cette fois-ci, ça a pris un tour un peu plus personnel. Je pense que la déclaration du ministre de Gucht en début d'année sur le Congo a crispé beaucoup de gens du côté de la présidence. En fait, il y a eu une véritable un bras de fer personnel entre M. de Gucht et M. Kabila. C'est tout à fait regrettable, mais en fait, il n'y a pas eu de rupture véritable au niveau de l'ensemble des relations belgo-congolaises, voyez-vous. Mmh. Ce n'est pas une rupture au niveau de la politique en général. C'est vraiment une rupture qui était liée au ton et à la communication. Et il y a eu de nombreuses critiques qui touchaient le ministre belge des Affaires étrangères au sein de la Belgique même. De nombreux hommes politiques ont soulevé la question, est-ce qu'il faut parler comme ça aux Congolais? Est-ce qu'il faut leur dire ça publiquement alors qu'on ne le dirait pas vis-à-vis d'un autre pays? Donc je pense que ici en Belgique, on a bien compris l'affront qui avait été fait au président Kabila en l'occurrence. Mais quand je dis que la rupture n'a pas été totale, heureusement, des ministres autres que M. de Gucht ont pu continuer à se voir. La Belgique, elle-même, à travers ses diplomates, a pu continuer son travail sur la RDC, au Conseil de sécurité, dont elle était membre jusque fin 2008. Le ministre de Gucht lui-même s'est déplacé à New York pour assurer le succès de la résolution 1856en décembre. Donc, vous voyez, toute une série de choses ont continué. C'est vrai, certaines autres ont été suspendues et parmi celles-là, il y avait quand même les consulats, il y avait l'échange des ambassadeurs, des choses qui sont symboliquement assez chargées.
Oui,
donc, je pense que tout le monde est content que ça ait pris fin.
Oui.
Mais je vois plus ça finalement comme une péripétie que comme une dissension véritable sur le fond.
Sur le fond. Oui. Oui, très rapidement encore, je vous garde, Xavier Zembrouck, parce qu'il y a, après la déclaration commune entre le Premier ministre belge, Herman Van Rompuy, j'espère que je prononce bien le nom, et le Premier ministre congolais, Adolphe Mouzito, convenu samedi, c'est le 24 janvier, de normaliser justement ses relations entre les deux pays. La réaction du ministre de la Coopération au Développement, Charles Michel, lui s'est dit satisfait et il a lâché à l'agence belga, je cite, « J'espère que cette étape permettra de redynamiser les relations tant dans l'intérêt du peuple congolais que dans celui de la crédibilité de la Belgique. » Comment vous comprenez cette déclaration de Charles Michel? Très rapidement, hein, Xavier Zembrouck.
Oui, c'est une déclaration, je dirais, qui va dans le sens de tout le monde, à la fois ce que disent les Belges et ce que disent les Congolais. Donc, il y a rien de spécial, à mon avis, à ce niveau-là. La signification, c'est reprenons le travail au plus vite,
ouais.
Et puis oublions ces 7 mois calamiteux. Et voilà, je pense que Charles Michel est celui qui a aidé à rapprocher, oui. Et puis notre Premier ministre Van Rompuy, il a confirmé ce rapprochement au plus haut niveau.
Merci, Xavier Zembrouck. Alors, Roger Lumbala, il y a cet autre auditeur, c'est Lomé, qui nous écrit de Bounia, en province orientale. Il dit, même normaliser les relations entre la RDC et la Belgique vont se brouiller dans peu de temps, dès que la Belgique dira une vérité. Le gouvernement de la RDC s'agitera et rompra la coopération. Les relations entre les deux pays ont toujours évolué pendant des siècles. Ça, c'est lui qui le dit, Roger Lumbala, puisque les deux parties ont ainsi convenu d'entretenir entre leurs deux pays un dialogue permanent. Ça, c'est encore les termes de cet accord, un dialogue permanent, franc, ouvert et constructif, respectueux des institutions démocratiques. Roger Lumbala, vous pensez que les officiels congolais, vous êtes prêts à accepter un dialogue franc de la part des gouvernants belges?
Bien sûr que nous sommes prêts à accepter. Nous avons accepté et nous devons accepter entre deux mains, de celui qui donne et celui qui reçoit. Il y a toujours la main de celui qui donne, qui est au-dessus de celui qui reçoit. Nous sommes dans une position aujourd'hui de faillite de l'État. À ce moment-là, à qui profite la rupture des relations? Est-ce que c'est à la Belgique ou à la République démocratique du Congo? C'est là où nous disons que la diplomatie parlementaire qu'a évoqué notre ami et député collègue est en marche. Et nous irons beaucoup plus loin si le président de l'Assemblée nationale n'est pas déstabilisé par le gouvernement parallèle de la République démocratique du Congo qu'on a toujours décrié.
Oui, excusez-moi. Donc,
aujourd'hui, ce qui est fait est fait.
S'il vous plaît,
nous sommes à l'heure où il faut normaliser nos relations.
Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais vous demander d'abord d'être concis parce que nous tendons tout doucement vers la fin de l'émission, mais juste par rapport à ce que les deux pays perdaient. Prenons le cas de la RDC, qu'est-ce qu'elle aura perdu pendant ce temps de conflit, je dirais, presque rupture de sa relation.
Mais est-ce que vous savez que toutes les institutions internationales aujourd'hui considèrent la Belgique comme un responsable moral de la République démocratique du Congo et posent toujours des questions quand il faut agir ou aider la République démocratique du Congo? La Belgique est dans une Union européenne forte, capable de pouvoir aider n'importe quel pays. C'est dans ce sens-là que nous disons nous avons perdu beaucoup de relations et notre crédibilité. Aujourd'hui, la Belgique est très utile pour la République démocratique du Congo et vice-versa. Nous sommes condamnés, comme on a dit, de vivre ensemble et pour l'éternité. Mais pour ce qui concerne les retombées, les retombées peuvent être très positives. Et surtout pour les consulats, mais je suis quand même étonné que l'on négocie les consulats seulement dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo, et que le Kasaï, qui peut être considéré aussi comme province sinistrée, ne soit pas proposé pour que nous puissions avoir un consulat.
Le
consulat ne doit pas seulement aller là-bas,
mais
consulat pour orienter les aides. Comme vous le savez, que la MIBA est fermée et que cette population est livrée à la pauvreté. Nous formulons le vœu que les chefs de l'État, par Josie, qu'ils demandent aussi
oui.
que nous ayons un consulat aussi dans les Kassai, quand bien même nous compatissons
oui.
avec nos frères de l'Est,
oui, oui.
mais la souffrance dans les Kassai est au même niveau que à l'Est de la République de notre pays.
Oui, Roger Lombala, évidemment, vous n'allez pas le dire sur Radio Capi, c'est à vous de travailler, de voir comment y parvenir. Mais vous aurez le temps d'y réagir. Hein. On donne d'abord la parole à Guy Maté qui vient de faire son entrée dans ce studio. Bonsoir Guy, c'est pour la réaction des auditeurs, n'est-ce pas?
Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Maintenant que la normalisation des relations diplomatiques entre la RDC et la Belgique est effective, est-ce que la Belgique traitera d'égal à égal avec la RDC? Question de Nico Kisteng et de Kananga au Kasaï occidental. Esdras Kagoma, de Beni au Nord Kivu, demande pourquoi Lubanga est poursuivi seul alors que son proche collaborateur, Bosco Ntaganda, n'est pas arrêté. Un auditeur anonyme pense que juger les auteurs des crimes est une bonne chose, mais chercher à mettre fin à la fabrication des armes, des guerres, sera une très bonne chose pour l'humanité.
Merci beaucoup Guy Massé. Évidemment, deux auditeurs, Esdras Kagoma et l'auditeur anonyme, sont revenus au premier sujet. Mais on va d'abord permettre à nos invités de clôturer, si vous voulez, le second thème. Avec cette réaction justement de, qui nous vient de Kananga, de Nico, qui veut savoir si la normalisation des relations diplomatiques entre la RDC et la Belgique, maintenant qu'elle est effective, est-ce que la Belgique traitera d'égal à égal avec la RDC? Je vous repose cette question, Joseph Ipalaka, vous êtes député national de DCF COFEDEC, allié de la majorité au pouvoir.
Oui, sur le plan de principe, les États sont égaux, ils traitent au même pied d'égalité. Mais la réalité souvent est tout autre, comme l'a dit le collègue Lumbala, la main qui donne a toujours, comment est-ce que je peux exprimer ça, un peu de privilège par rapport à celui qui reçoit est toujours en position de faiblesse. Mais sur le plan des principes, les États traitent au même pied d'égalité.
Oui, mais est-ce que vous pensez, comme l'a dit Xavier Zebrouck, que dans le cas précis, c'était un peu une histoire presque personnelle entre Karel De Gaulle et peut-être, je pense, le chef de l'État congolais? Vous pensez que les deux États devraient peut-être aller au-delà de leur personne?
Bon, oui, mais écoutez, quand vous tenez de propos discourtois à l'endroit d'un chef de l'État à l'endroit de leader de responsable d'une institution comme l'Assemblée nationale, c'est, vous vous adressez en quelque sorte à l'État, vous vous adressez à l'institution. Ça, ce sont les notions les plus élémentaires dans le domaine de la diplomatie. Quand on s'adresse à un chef de l'État, il faut savoir vous mettre en tête que vous avez affaire à un État.
Oui.
Quand vous vous adressez au président de l'Assemblée nationale, vous devez vous mettre en tête que vous vous adressez à l'Assemblée nationale.
Oui, je ne suis pas là, quand on entend pratiquement, il ne reste plus que deux minutes. Est-ce que finalement, vous ne voulez pas, par exemple, que Karel De Gaulle revienne ou un autre diplomate belge ne vienne, par exemple, dénoncer le manque de bonne gouvernance en RDC?
Il y a la manière de le faire. Mmh. Beaucoup de pays nous font des remarques dans ce sens-là, mais dans la courtoisie diplomatique.
Voilà. On est pratiquement à la fin de cette émission, mais juste 30 secondes à chacun pour clôturer ce sujet, puisque les auditeurs nous ont écrit. Et évidemment, on est obligé de revenir à leurs questions avec Esdras Kagoma de Beni au Nord Kivu, qui a demandé pourquoi Lubanga est poursuivi seul alors que son proche collaborateur, Bosco Ntaganda, n'est pas arrêté. Et, en 30 secondes, Xavier Zebrouck. 30 secondes vraiment.
Ah ben, sur Bosco Ntaganda, la situation est quand même claire. Il est également recherché par la Cour pénale internationale. Donc, il n'est pas arrêté, c'est vrai, mais quand même, de lourdes craintes pèsent sur ses épaules. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'il a essayé à plusieurs reprises d'obtenir dans des négociations l'impunité. Mais le problème, c'est qu'aucun État ne peut garantir l'impunité
merci.
Concernant les crimes de guerre.
Merci beaucoup. Merci.
Voilà, ce n'est qu'une question de temps.
Voilà, c'est une question de temps. Roger Lumbala, 20 secondes, hein. Vous êtes déjà en avance par rapport au temps, s'il vous plaît. Vraiment, pour clôturer
tout ça. Je viens de constater, un nationaliste que je suis, je ne peux pas aujourd'hui permettre qu'un citoyen congolais soit jugé là où on ne sait pas juger des Américains qui refusent de signer les traités de Rome parce qu'ils reconnaissent les crimes qu'ils commettent à travers le monde.
Merci beaucoup.
Et je me dis qu'aujourd'hui, Thomas Lubanga est là-bas.
Oui. Merci.
Bosco Taganda.
Oui.
Il est au Congo.
Merci.
Pardon?
Oui, on a fini, parce que je vous ai dit d'être vraiment bref, je suis désolé, Roger Lumbala, c'est la fin. Voilà, je vous dis merci à vous, Roger Lumbala, Xavier Zebrouk et Joseph Ipalaka, voilà, c'est Dieudonné Nyangasa qui était à la mise en onde, Claude Kianzadi, Mathé Perrault et la Meji, Magali Kabalé, Aurélie Moupapa, notre stagiaire, Martin Astébou-Jangoué et Jean-Claude Makamanga. Je vous dis merci à tous de nous avoir suivis.